Bienvenue dans notre analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui revient souvent et qui, franchement, suscite pas mal de débats. Mais qui a réellement créé Internet ?
Oui, bonjour. C'est une excellente question. Et comme le suggère notre document source, qui a créé Internet, singequantique.exe, la réponse est tout sauf simple.
Exactement. On entend souvent les Américains, bien sûr, mais parfois on cite aussi les Français, les Britanniques. C'est un peu flou, quoi.
Tout à fait. Et c'est ça qui est passionnant. La réalité historique, c'est que ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne ou d'un seul pays. C'est une histoire collective, complexe, qui s'étale sur plusieurs décennies.
Notre mission, si on l'accepte,
voilà.
C'est de démêler un peu cet écheveau. On va essayer de remonter le fil, voir les idées de départ, les projets clés, les contributions parfois oubliées.
C'est ça, pour comprendre comment on est passé de quelques ordinateurs connectés à, au réseau mondial qu'on connaît tous.
Alors, accrochez-vous, on part pour un petit voyage dans le temps. Direction les années 60 pour commencer. Donc, les années 60, pleine guerre froide, faut imaginer. Les ordinateurs, c'est des armoires énormes, isolées les unes des autres.
Oui, des machines très chères, très peu nombreuses, dans quelques universités ou centres de recherche. L'idée de les faire papoter entre elles, c'est pas évident.
Et pourtant, certains y pensent déjà. Des visionnaires.
Absolument. Il y a notamment Jesse R. Licklider. C'est un psychologue et informaticien qui travaille pour l'ARPA, l'Agence de recherche de la défense américaine. Et dès 1962, il écrit des notes sur son idée d'Intergalactic Computer Network.
Un réseau informatique intergalactique.
Carrément. Oui, le nom est un peu science-fiction, mais l'idée est là. Un réseau planétaire où on pourrait accéder à l'information et aux programmes de n'importe où. C'était radicalement nouveau pour l'époque.
Et en même temps, il y a cette préoccupation très militaire, liée à la guerre froide, la peur d'une attaque nucléaire.
Exactement. Le Pentagone se demande comment maintenir les communications si les systèmes centralisés traditionnels sont détruits. Il faut quelque chose de résilient.
C'est là qu'intervient Paul Baran.
C'est ça, Paul Baran, qui travaille pour la RAND Corporation. En 1964, il publie des travaux théoriques sur un réseau maillé, sans centre unique. Son idée géniale, c'est de découper les messages en petits paquets standardisés qu'il appelle « messages blocs ».
Des blocs de messages ?
Voilà. Qui pourraient voyager indépendamment sur le réseau, par des chemins différents, et être réassemblés à l'arrivée. Si une partie du réseau est détruite, les blocs trouvent une autre route.
Une idée clé pour la survie du réseau. Mais ça reste théorique à ce moment-là.
Chez Baran, oui, ça reste sur le papier, mais ce qui est fascinant, c'est que presque au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique...
Au Royaume-Uni.
Oui, au National Physical Laboratory, le NPL, un certain Donald Davis développe une idée très très similaire. Et c'est lui qui va populariser le terme qu'on utilise encore aujourd'hui, « packet switching », la commutation par paquet.
Ah, c'est Davis qui invente le terme « paquet ».
Oui. Et il va même plus loin, conceptuellement, en insistant sur ce qu'il appelle le principe de bout en bout.
Le principe de bout en bout. Qu'est-ce que ça veut dire, simplement ?
En gros, ça veut dire que l'intelligence, le contrôle des erreurs, la gestion du flux, tout ça ne doit pas être dans le cœur du réseau, mais aux extrémités. Dans les ordinateurs qui se connectent. Le réseau, lui, il fait juste passer les paquets le plus vite possible.
Le réseau est bête et les ordinateurs au bout sont intelligents.
C'est exactement ça. Une philosophie qui sera absolument fondamentale pour Internet. Ça rend le réseau plus simple, plus flexible.
Et Davis, lui, il ne fait pas que théoriser.
Non, et ça c'est crucial. Son équipe au NPL, elle construit un réseau expérimental. Et début 1969, ça fonctionne. Ils envoient leur premier paquet. C'est la toute première implémentation concrète d'un réseau à paquets.
Avant ARPANET, donc ?
Oui, quelques mois avant les premiers tests d'ARPANET. Et fait intéressant, en 1967, un collègue de Davis, Roger Scantelbury, présente leurs idées à une conférence aux États-Unis. Et dans l'audience, il y a les gens qui préparent ARPANET.
Et ça a eu un impact ?
Un impact direct. Cette présentation a convaincu les Américains d'adopter la commutation par paquet pour ARPANET, et même d'augmenter la vitesse prévue pour leur réseau. L'influence britannique est là, documentée.
C'est fou. Pourtant, on entend moins parler de Davis que des Américains. Son projet a eu moins de soutien ?
Malheureusement, oui. Le gouvernement britannique n'a pas vraiment vu le potentiel à l'époque. Le financement est resté modeste. Mais la technologie, l'idée fondamentale du paquet, elle est bien là. Posé par des chercheurs américains et britanniques, quasi simultanément.
Bon, alors allons voir ce fameux projet ARPANET aux États-Unis. Qui a eu l'idée de le lancer concrètement ?
L'impulsion initiale vient souvent de Robert Taylor, qui était à la tête du bureau des techniques de traitement de l'information à l'ARPA. La légende dit qu'il en avait marre d'avoir 3 terminaux différents dans son bureau pour se connecter à 3 ordinateurs distants.
Ah oui, le cauchemar.
Voilà. Et en 66, il aurait dit « Il nous faut un seul terminal pour aller partout ».
L'idée, c'était donc de relier les quelques gros ordinateurs des universités qui travaillaient pour l'ARPA pour partager leurs ressources. Et bien sûr, l'idée de résilience post-Barsian est aussi en tête.
Et on arrive à ce moment historique, fin 1969, la première connexion.
Le 29 octobre 1969, vers 22h30.
Entre UCLA à Los Angeles et le Stanford Research Institute, SRI. Charlie Klein, un étudiant à UCLA, doit taper la commande « login » pour se connecter.
Simple, normalement.
Normalement.
Il tape « L », son contact à SRI dit « OK, j'ai le L ». Il tape « O »,« OK, j'ai le O ». Il tape « G ». Et là, le système plante. Crash. Le tout premier message échangé sur ce qui allait devenir Internet, c'était donc « LO ».
LO, comme low and behold en anglais ou juste un hello raté. C'est assez ironique.
Complètement. Mais comme l'a dit Leonard Kleinrock, le professeur à UCLA, pourtant, une révolution avait commencé. Et effectivement, malgré ce démarrage un peu bancal, ARPANET grandit vite.
Combien de sites au début ?
4 à la fin 1969. UCLA, SRI, UC Santa Barbara et l'Université de l'Utah. Puis ça s'étend progressivement à travers les États-Unis.
Et ce réseau, il ne sert pas qu'à partager du temps de calcul, j'imagine.
Non. Très vite, une application va tout changer. Quelque chose d'imprévu au départ.
Le courrier électronique ? Exactement. L'email. En 1971, Ray Tomlinson, un ingénieur chez BBN, qui travaillait sur ARPANET, bricole un programme pour envoyer des messages à d'autres utilisateurs sur le réseau. Et c'est lui qui choisit le symbole at, l'arobase, pour séparer le nom de l'utilisateur du nom de la machine.
Et ça prend tout de suite.
Ça devient la killer app, l'application phare. Les chercheurs adorent, ça devient le principal usage d'ARPANET, bien plus que le partage de ressources informatiques.
C'est intéressant ce mélange, un projet financé par les militaires, mais qui devient un outil de communication pour les scientifiques.
Oui, c'est une culture assez unique qui émerge. Très académique, un peu geek, basée sur le partage, l'expérimentation. Même si c'est financé par la défense. Il y a une démo publique marquante en 72 à Washington, où l'email est présenté, ça commence à se savoir.
Mais pendant qu'ARPANET se développe aux US, on a vu qu'il y avait le NPL au Royaume-Uni. Et en France aussi, il se passait des choses importantes.
Ah oui, il faut absolument parler de la France. Dès 1972, un projet ambitieux est lancé, Cyclad, porté par Louis Pouzin, avec le soutien de l'IRIA, qui est l'ancêtre de l'INRIA actuelle.
Cyclad, et quelle était son originalité par rapport à ARPANET ?
L'innovation majeure de Cyclad, c'était son architecture. Elle était basée d'emblée et de manière très pure sur le principe du datagramme, inspiré par l'idée de bout en bout de Davis.
C'est-à-dire ? Expliquez-nous un peu.
Contrairement à ARPANET à l'époque, le réseau central de Cyclad, qui s'appelait Sigal, était volontairement minimaliste. Il se contentait d'acheminer les paquets de données, les datagrammes, sans aucune garantie. Pas de correction d'erreur, pas de garantie d'arrivée ou d'ordre.
Un peu comme un service postal de base, sans recommandé ni suivi.
C'est une bonne image. Toute la responsabilité de vérifier que tout était bien arrivé, dans le bon ordre, de demander les paquets manquants, tout ça reposait sur les ordinateurs connectés aux extrémités, les hôtes.
Et pourquoi ce choix d'un réseau central simple ?
Pouzin était très visionnaire et pragmatique. Il pensait qu'en Europe, avec les PTT, les monopoles d'État des télécoms, ce serait très compliqué de leur faire modifier leur réseau interne. Son idée, c'était « on va construire un réseau par-dessus leur ligne sans avoir besoin de les changer. On met l'intelligence chez les utilisateurs, pas dans le réseau des PTT. »
Très malin. Et cette approche, elle a eu une influence ?
Une influence énorme, directe sur les travaux de Vince Cerf et Bob Kahn, ceux qui vont créer TCP/IP. La philosophie de Cyclad, réseau simple, extrémité intelligente, c'est vraiment le cœur de l'architecture d'Internet aujourd'hui.
Ah oui, quand même. Des chercheurs français de Cyclad ont collaboré avec eux.
Oui, Gérard Lelan, par exemple, a beaucoup échangé avec Cerf et Kahn. L'apport de Cyclad est reconnu. Hein, le projet a même eu une vingtaine de nœuds avec des liens vers Londres, Rome.
Mais alors, pourquoi on n'utilise pas Cyclad aujourd'hui ?
il a été arrêté. Malheureusement, oui. Décision politique française au milieu des années 70. Le gouvernement a préféré miser sur un autre standard, le X.25, promu par les PTT pour leur réseau Transpac. Le financement de Cyclades a été coupé en 75 et le réseau a fini par fermer en 81. C'est un peu un gâchis technologique rétrospectivement.
Dommage pour cette avance française, mais ça montre bien qu'il y avait plusieurs réseaux, plusieurs approches à l'époque. ARPANET, NPL, Cyclades. Comment on passe de ces réseaux séparés à l'Internet ?
Ben voilà, c'est la question clé du début des années 70. On a ces îles technologiques, mais elles ne parlent pas la même langue. Comment créer un réseau de réseaux ? C'est le défi de l'interconnexion ou Internet Working.
Et là, on retrouve les noms de Vint Cerf et Bob Kahn, souvent présentés comme les « pères d'Internet ».
Oui, ce sont des figures centrales. Bob Kahn travaillait pour l'ARPA et Vint Cerf était à Stanford. Ils ont été très marqués par l'expérience de Cyclades et son approche des datagrammes, et aussi par les travaux de Davies. À partir de 1963, ils commencent à réfléchir à un protocole universel pour relier tous ces réseaux différents.
Un langage commun en quelque sorte.
Transmission Control Protocol, ou TCP.
Quelle est l'idée fondamentale derrière TCP ?
Elle s'inspire beaucoup de Cyclades. Séparer les tâches. Ils imaginent une architecture en couches. Au niveau le plus bas, un protocole simple pour juste faire voyager les paquets, datagrammes, à travers les réseaux hétérogènes. Ce sera l'Internet protocole, IP. Il fait de son mieux, best effort, mais sans garantie.
C'est la partie routage simple.
Voilà. Et au-dessus, un autre protocole qui fonctionne de bout en bout entre les machines qui communiquent, le Transmission Control Protocol, TCP. Lui, il assure la fiabilité. Il vérifie que tous les paquets sont arrivés, les remet dans l'ordre, gère le débit, demande de renvoyer ce qui manque.
Donc IP s'occupe de l'adresse et du chemin, et TCP de la livraison fiable et ordonnée.
Permettre de construire un réseau de réseaux fiable, même si les réseaux sous-jacents ne le sont pas.
Et ils ont réussi à prouver que ça marchait, cette idée ?
Oui, il y a eu une démonstration assez spectaculaire le 22 novembre 1977. Ils ont réussi à faire communiquer un ordinateur via trois réseaux complètement différents. ARPANET, un réseau radio pour véhicules, Packet Radio Network, et un réseau satellite reliant les États-Unis à l'Europe, SatNet. Le tout en utilisant une première version de TCPi.
Le message est passé à travers les trois.
Sans problème. C'était la preuve que l'Internet Working fonctionnait. Le protocole a ensuite été affiné, notamment en séparant clairement TCP et IP vers 1978.
Et puis il y a eu une date importante, le 1er janvier 1983.
Ah oui, le Flag Day. C'est une date symbolique très forte. Ce jour-là, l'ensemble du réseau ARPANET a officiellement abandonné son ancien protocole NCP pour basculer entièrement sur TCP/IP.
Pourquoi c'est si important ?
Parce que ça a marqué la naissance de l'Internet tel qu'on le conçoit. Un ensemble de réseaux interconnectés utilisant le même langage, TCP/IP. À partir de ce moment-là, n'importe quel réseau qui adoptait TCP/IP pouvait potentiellement rejoindre cet Internet. C'est aussi à ce moment qu'ARPANET a été divisé en 1000 nets pour les militaires et un réseau pour la recherche.
D'autres éléments importants apparaissent aussi dans ces années-là, pour que tout ça fonctionne bien.
Oui, tout à fait. Par exemple, le système des noms de domaine, le DNS, est inventé en 1983 par Paul Mocapritrice. C'est ce qui nous permet de taper des adresses comme google.com au lieu de suites de chiffres compliqués.
Ah oui, essentiel pour l'usage.
Et puis des organismes de coordination technique se mettent en place, comme l'Internet Architecture Board, IAB, et surtout l'Internet Engineering Task Force, IETF, en 1986, qui gère encore aujourd'hui l'évolution des standards technos d'Internet de manière assez ouverte et collaborative.
Il y avait aussi une concurrence avec un autre modèle, non, OSI.
Oui, dans les années 80, il y a une sorte de guerre des standards entre TCP/IP qui venait du monde ARPANET Recherche et le modèle OSI poussé par les organisations de standardisation internationale et les opérateurs télécoms, surtout en Europe. OSI était très complet sur le papier, mais beaucoup plus complexe et lent à mettre en œuvre.
Et c'est TCP/IP qui a gagné ?
Oui, clairement, par pragmatisme, parce qu'il était déjà là, il fonctionnait, il était plus simple et il a été adopté massivement par la communauté de la recherche. OSI est resté largement théorique.
Donc, après 83, avec TCP/IP comme standard, Internet sort un peu du monde militaire et de la recherche pure.
Progressivement, oui. Aux États-Unis, c'est la National Science Foundation, la NSF, qui prend un peu le relais de l'ARPA.
En 1985, elle lance le NSFNet, un réseau à haut débit pour connecter les universités et les centres de recherche.
Une sorte de nouvelle épine dorsale.
Exactement. Et ce réseau va monter en puissance très vite. 56 kbps au début, puis 1,5 mbps en 88, et même 45 mbps en 91. Ça commence à être sérieux. D'ailleurs, ARPANET lui-même est mis hors service en 1990, fin d'une époque.
Et l'Europe se connecte à tout ça?
Oui, les réseaux académiques européens, qui existaient déjà, adoptent de plus en plus TCP/IP et se connectent au NSFNet. Malgré un certain retard en France, à cause du succès du Minitel.
Ah, le Minitel, notre exception française.
Voilà. Mais les universités françaises finissent par se connecter à la fin des années 80. En 89, un réseau fédérateur européen, UNET, est créé. L'Internet devient vraiment planétaire, au moins dans le monde académique.
Et le grand public, les entreprises? Toujours pas?
On y arrive. Fin des années 80, début 90, c'est le tournant. D'abord, en 89, aux USA, le premier fournisseur d'accès Internet commercial, The World, voit le jour. Et la NSF commence à autoriser, un peu à reculons, le trafic commercial sur son réseau. Mais la vraie révolution pour le grand public, elle arrive d'Europe.
Le World Wide Web. On y vient enfin.
Eh oui. L'invention de Tim Berners-Lee, un Britannique qui travaille au CERN, le grand laboratoire de physique des particules, en Suisse, près de Genève.
Qu'est-ce qu'il propose exactement en 1989?
Il est frustré par la difficulté pour les chercheurs du CERN de partager facilement leurs documents, leurs données. Il propose un système de gestion de l'information basé sur l'hypertexte, l'idée de pouvoir cliquer sur un lien pour passer d'un document à un autre.
Simple, mais génial.
Simple, mais révolutionnaire sur l'infrastructure existante d'Internet. Il développe les briques de base, le langage HTML pour créer les pages, le protocole HTTP pour les transférer, les adresses URL pour les localiser. Et il crée le premier navigateur web et le premier serveur web, avec l'aide d'un ingénieur belge, Robert Caillot.
Et le coup de maître, c'est que le CERN rend tout ça public.
Oui, geste absolument crucial. Le 30 avril 1993, le CERN annonce que la technologie du web est placée dans le domaine public. Pas de brevet, pas de licence à payer. N'importe qui peut l'utiliser, la développer.
Et là, ça ouvre les vannes.
Ça est l'arrivée, quelques mois plus tard, de Mosaic. C'est le premier navigateur web vraiment graphique, facile à utiliser, développé par Marc-André Hassen et son équipe à l'université de l'Illinois. Il s'affichait les images directement dans la page, c'est beaucoup plus attrayant. Mosaic, c'est le détonateur de l'explosion du web.
Et donc, les années 90, c'est l'explosion d'Internet auprès du grand public.
C'est une croissance exponentielle complètement folle. Le web rend Internet accessible et intéressant pour monsieur et madame tout le monde. Les fournisseurs d'accès se multiplient, AOL, CompuServe, puis les acteurs locaux. On se connecte depuis la maison avec les modems.
Le fameux bruit de connexion.
Ah oui, toute une époque. Internet devient mainstream, les chiffres le montrent. En 93, c'est 1% du trafic télécom mondial. En 2000, c'est plus de 50%. C'est énorme.
Et l'infrastructure suit.
Oui, en 95, le NSFNet est démantelé. C'est la fin du financement public direct de la dorsale américaine. Les opérateurs privés prennent complètement le relais. C'est la consécration d'Internet comme un réseau public, commercial, mondial.
L'impact sur la société est immense à ce moment-là.
Oui, l'email explose, les forums de discussion, les premiers chats en ligne, les sites web personnels qui fleurissent avec une esthétique parfois, disons, particulière.
Oui, les fonds étoilés, les gifs animés.
Exactement. On commence à parler de villages planétaires, d'accès à l'information via les moteurs de recherche comme AltaVista, avant Google. C'est l'époque où Al Gore parle des autoroutes de l'information.
Mais cette popularisation rapide amène aussi des problèmes, j'imagine.
Bien sûr. Des débats sur la liberté d'expression, la régulation des contenus, la sécurité, le chiffrement. Certains États, comme la Chine, commencent déjà à vouloir filtrer, contrôler. La question de la gouvernance d'Internet devient un enjeu majeur.
C'est ce qui mène à la création de l'ICANN.
Oui, en 1998, l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, est créée pour gérer de manière plus globale et multi-acteurs les aspects critiques comme les adresses IP et les noms de domaine, qui étaient jusque-là très dépendants du gouvernement américain. C'est une étape importante vers une gouvernance plus internationale.
Bon, après tout ce parcours, revenons à notre question initiale. Finalement, qui a créé Internet, si on doit résumer?
Ben, la conclusion, c'est qu'il n'y a vraiment pas de réponse simple ou unique. C'est impossible de désigner un seul inventeur ou un seul pays.
C'est une œuvre collective.
Totalement. Il faut reconnaître les contributions multiples, qui se sont répandues, qui se sont influenciées. Il y a eu, bien sûr...
Les États-Unis.
Oui, rôle majeur. Le financement initial via l'ARPA, la coordination du projet ARPANET, des figures clés comme Lee Klider pour la vision, Baran pour la robustesse, Taylor pour le lancement, Kleinrock, Roberts, et surtout CERF et CAN pour la synthèse TCP/IP, avec toute une communauté de chercheurs derrière.
Mais pas seulement les États-Unis.
Non, surtout pas. Il faut absolument citer le Royaume-Uni, Donald Davis au NPL, qui a inventé indépendamment la commutation par paquet, le terme lui-même, et le principe fondamental du bout en bout, et qui a directement influencé ARPANET. C'est crucial.
Et la France ?
Et la France avec Louis Pouzin et le projet Cyclades, pionnier du datagramme pur, de l'architecture end-to-end qui a tant inspiré TCPi. Il faut aussi mentionner des chercheurs comme Gérard Lelanne ou Hubert Zimmermann qui a joué un rôle important dans le modèle OSI, même s'il n'est pas abouti.
Et on ne doit pas oublier les autres pays qui se sont connectés tôt, comme la Norvège, le Canada, et bien sûr l'inventeur du web, Tim Berners-Lee, un Britannique travaillant en Suisse au CERN avec son collègue belge Robert Caillot.
Exactement. C'est ça l'histoire d'Internet. Une convergence d'idées, de projets, de personnes venant de partout. La vision de Lee Klider, la technologie de Baran et Davis, la réalisation d'ARPANET, la synthèse géniale de CERF et CAN nourrie par Cyclades, et puis l'ouverture au monde grâce à Berners-Lee.
Chaque pays a son chapitre, mais personne n'a écrit tout le livre.
C'est parfaitement résumé. Attribuer l'invention à un seul, ce serait non seulement faux, mais ça masquerait la nature même d'Internet, qui est née de l'interconnexion et de la collaboration.
C'est une épopée assez incroyable quand on y pense. Partir de ce simple LO échangé entre deux machines en 69 pour arriver aujourd'hui à plus de 5 milliards d'humains connectés qui échangent tout et n'importe quoi en temps réel.
Oui, des informations vitales, de la culture, de la science et des vidéos de chats. Internet a dépassé tous les rêves ou peut-être les cauchemars de ses créateurs. C'est devenu une infrastructure fondamentale de nos sociétés.
Avec ce paradoxe que vous soulignez, né en partie de la paranoïa de la guerre froide.
Mais qui n'a pu réellement grandir et s'épanouir que grâce à une collaboration scientifique internationale assez remarquable, basée sur l'ouverture et le partage.
Donc, voilà, la prochaine fois qu'on entend une affirmation un peu trop simple sur l'inventeur d'Internet, on saura quoi répondre. C'est une histoire complexe, multifacette, internationale. Internet a plusieurs pères et même plusieurs mères. Et c'est ce qui fait sa richesse.
Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour aujourd'hui et pour demain. Maintenant qu'Internet est cette infrastructure mondiale critique, comment faire en sorte que son évolution future continue de refléter cet esprit de collaboration, d'ouverture, face aux énormes pressions commerciales et géopolitiques qui poussent plutôt à la fermeture, à la fragmentation, au contrôle?
C'est une excellente question. Comment garder cet Internet global et ouvert?
C'est sans doute le grand défi des années à venir. Maintenir cet héritage collectif face aux forces qui voudraient le démanteler ou se l'approprier. Une question qu'on laisse en suspens pour nos auditeurs.
Une question à méditer, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur les origines complexes d'Internet.
Merci à vous.